Sud Radio Invino, midi 30, 13h. Alain Marty.
Bonjour à vous, tous les amoureux du vin et de la modération. Bienvenue à bord du numéro 1013 d'Invino. Ben oui, depuis la création de l'émission, c'était en 2004. Comme vous le savez, nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio, par exemple, dans la capitale, sur 99.9, et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable, avec tout à l'heure Mathilde Giraudet, gérante du domaine de Bois Mosé, et puis le Vino Quiz pour gagner un coffret 3 bouteilles de la marque Bandit Loire, un coffret Divine également, en jouant sur invinoradio.tv. À mes côtés, deux personnages formidables. Hélène Pio, elle est belle comme un cœur. Hélène, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène.
Bonjour Alain.
Ainsi que David Kebold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour David.
Bonjour Alain. Bonjour.
Voilà, aujourd'hui c'est bon, c'est l'armistice, hein, c'est le 8 mai.
Ouais,
allez, on
ça.
Pardonne tous les Anglais qui nous ont fait depuis quelques siècles.
L'armistice, je signale Alain, c'était quand même avec un autre pays.
C'est vrai. Alors pour commencer cette émission, Invino Sud Radio accueille Paul et Gerter. Bonjour Paul.
Bonjour.
Alors racontez-nous, là, votre cœur, il balance entre la Bourgogne et la Provence ou
Mon cœur balance, a démarré en Bourgogne surtout il y a quelques années avec mon père, on va dire début du domaine en 94.
Oui.
Et effectivement, j'ai vite pris le goût du Sud avec la création d'une marque qui était Les Jolies Filles dans les années 2010. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de marques sur la Provence. C'est vrai qu'il y avait des grands châteaux, quelques grands noms, mais il n'y avait pas vraiment de marques. Je parle de ça il y a 10 ans. Et donc, mon cœur a balancé très vite sur la Provence, tout en continuant à évoluer en Bourgogne, en exploitant nos 14 hectares situés de Nuit-Saint-Georges, Savigny, Chorel-et-Beaune.
Oui, très large, hein, ça va du Mâconnais
En fait, on exploite une cinquantaine d'hectares. En tout, en totalité, entre la partie fermage et la partie...
Et l'histoire de vin, donc, côté bourguignonne, elle commence quand ?
Le domaine 94, avec mon père qui a acheté un hectare à Nuit-Saint-Georges, historiquement. Et après, on a fait grandir le domaine en passant par le négoce, puisqu'au départ, on n'a pas une éducation. On n'avait pas de vigne. Nous, on est vraiment nés du commerce et on a acheté des vignes au fur et à mesure. Et maintenant, on a pu acquérir un peu plus de 14 hectares sur toute la Bourgogne, avec plus de 30 hectares en fermage sur des terroirs. Allons effectivement... de Pouilly-Fussé, puisqu'on vient de reprendre un domaine en fermage sur Solutré très récemment, et jusqu'au Chablisien du côté de Benne.
David Kebold, on ne se rend pas bien compte des hectares, mais quand on dit 14 hectares, bon, allez, on réseaute sur d'autres régions, c'est bien, c'est même très bien, mais en Bourgogne, c'est monstrueux.
Je ne sais pas si c'est monstrueux. Ce qui est très difficile en Bourgogne pour quelqu'un qui veut acheter des vignes, c'est deux choses. Le prix du foncier, qui dans certaines régions est hors de prix. Quand on pense au prix qu'achète M. Pinot Arnaud un domaine, ça fait gonfler le foncier d'une manière déraisonnable. Et puis aussi l'étendue et l'étroitesse et le morcellement du vignoble. C'est-à-dire que pour acquérir un hectare, parfois il faut acheter plusieurs parcelles.
Oui, c'est ça, oui.
Parce que les codes napoléoniennes ont fait, et la valeur des vins ont fait, que les vignes sont subdivisées dans plein de petites parcelles. Donc c'est assez compliqué à gérer.
Hein. Hélène Pio ?
Alors effectivement, ça vous donne 40 appellations grosso modo sur la Bourgogne, ce qui est énorme. Et puis, vous n'êtes pas que en Bourgogne, puisque au fur et à mesure, vous avez gagné du terrain un petit peu partout. Et on parlait de la Provence tout à l'heure, où vous avez un pied avec cette cuvée des Jolies Filles depuis 10 ans. Racontez-nous les Jolies Filles.
Les Jolies Filles, très rapidement, en fait, c'est une idée qui m'est venue avec un ami historique avec qui j'ai développé une société qui s'appelle Why Not. On voulait amener une approche un peu le vin pour les nuls, expliquer aux gens qu'aujourd'hui le vin était accessible par tout le monde. Parce que c'est vrai que moi, étant en Bourgogne, souvent on dit oh, la Bourgogne c'est compliqué, c'est 10% des consommateurs très, très connaisseurs, les amateurs ou les non-connaisseurs ont toujours peur d'y aller, toujours peur d'avoir honte, de ne pas connaître les climats. Enfin, c'est vrai que c'est une région magique, mais à la fois extrêmement compliquée. Donc l'idée était venue de dire, bon, moi je veux investir dans le vignoble. Mon envie première depuis toujours, c'est d'avoir des vignes. Issu du monde agricole, je voulais absolument acquérir des vignes depuis des années. Donc j'ai dit deux solutions, je suis pas né avec l'argent, j'ai pas une famille issue du monde viticole.
Mais j'ai le bon sens bourguignon.
Et j'ai le bon sens et j'ai un père qui m'a tout à fait éduqué là-dedans et qui m'a dit on va acquérir des vignobles. Donc j'ai créé une société qui s'appelait Why Not, dans laquelle on a voulu, avec mon ami David Colliot, investir de plus en plus dans des marques faciles, accessibles, des enfants terribles, des jolies filles, pour justement aller conquérir le cœur de nouveaux consommateurs de demain, qui nous a permis d'évoluer, d'acquérir aujourd'hui Château Issole, 10 ans après qu'on a racheté à Cabas-sur-Issole, où je voulais justement une propriété très spécifique qui se rapproche de la Bourgogne, puisque on est un des rares aujourd'hui à exploiter la notion de climat, même en Provence. Toutes nos cuvées sont des notions de climat. On a 15 hectares, bientôt 18, sur 4 typologies de climats différents, Chabot, Barbéranne, s'ignore sur des plateaux à 450 mètres d'altitude avec des terroirs plutôt argilo-calcaires.
Donc une technique bourguignonne en Provence. David Cobol, c'est quoi un climat ?
Un climat, c'est une parcelle en Bourgogne. C'est le nom qui a été, je dirais, sanctifié quelque part par le classement à l'UNESCO des climats de Bourgogne. Donc c'est le nom donné au climat. Et comme Olivier de Serre, en 1600, dans l'agriculture et le ménage de champs, a dit, le vin, c'est l'air, le sol et le plan. Mmh. Voilà. Donc là, on a la notion, dans la notion de climat, c'est climatologie, mais c'est également topographie, pente, sol, orientation, tout ça. C'est ça. C'est une parcelle nommée dans le vignoble bourguignon.
Une question qu'on a pu poser Hélène Piau, les jolies filles, c'est bien, mais pourquoi vous ne l'avez pas appelé les jolis garçons ?
En fait, allez-y.
Non, j'ai une suggestion pour un troisième cuvée, après les enfants terribles, les jolies filles, pourquoi pas une cuvée des vieux cons ?
C'est pas mal aussi. Oui,
potentiellement, il y a pas mal de clients.
Potentiellement, il y a pas mal de clients.
Je pense qu'il
y a un marché. Hein.
Non, mais alors, justement, on avait monté une cuvée qui marche toujours très bien, qui s'appelle Les Beaux Gosses, qui était sur un négoce sur la vallée du Rhône, qui marche plutôt très bien. Et honnêtement, tout à fait honnêtement, surtout sur les périodes de crise, c'est des vins qui tournent facilement, c'est accessible, c'est facile à boire. C'est pas des grands vins, c'est des vins qu'aujourd'hui de monsieur tout le monde qui a envie de se faire plaisir
dans un budget.
Des vins sympas,
comment
des vins
ça coûte
copains. Ça va en fait en fonction du cépage et de l'appellation que vous puissiez faire. IGP du Var par exemple aux Côtes de Provence, vous allez entre 7,90 € TTC à 14,90 €.
Ouais, on est quand même loin des grands prix bourguignons. Quoi.
Et vous serez sur quel tarif sur le Château Isol, donc
alors,
dans le
Château Var Isol, alors déjà pour information, nous l'ensemble des propriétés, on est en reconversion bio depuis maintenant un an et demi. Sur l'ensemble des propriétés, avec une vraie volonté de passer en biodynamique, que ce soit sur Égertère, sur toute la partie propriété. On est en négociation avec nos propriétaires aussi sur la partie fermage pour la reconversion.
Ah oui.
Et pareil sur Château Isol, on est en reconversion bio et une demande en biodynamique qui est en train de se finaliser. Donc on a une vraie volonté de monter en puissance. Donc, et
ça c'est quoi ? C'est une vraie volonté intrinsèque chez vous ?
Ouais, c'est une volonté.
C'est un effet d'aubaine en disant ça se vend mieux ?
Non, pas du tout. Ah bon. Moi, je suis né du... Je suis né de l'agriculture et j'ai, grâce au négoce, pu acquérir des vignes dans l'objectif de passer... Moi, j'ai une ferme familiale dans le Limousin à Magnac-Laval. On est des têtes de bétail. On est en bio déjà depuis des années. C'est mes grands-parents qui ont initié ça. Et on a eu une vraie volonté, de toute façon, maintenant que j'ai les terroirs, de
passer en bio. Donc, c'est une vraie philosophie
qui devient obligatoire. Alors, je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Je suis entouré parce que ça fait quand même... en tout, quelques hectares à travailler entre la partie contrat raisin.
Vous êtes combien bossé au total ?
58.
Hors ferme du Limousin, en plus ?
Hors Limousin.
Hors Limousin.
Oui, uniquement en viticulture.
Ouais.
Et alors, en fait, vous m'avez répondu sur le bio et la biodynamie au moment où, moi, je vous posais une question sur les prix. Mais c'est intéressant que vous ayez fait ce bien-là parce que, effectivement, de plus en plus de consommateurs veulent des vins bio et se plaignent que les vins sont trop chers. Et à un moment donné, on a envie de leur dire, bah oui, mais gratter le sol à la pince à épiler plutôt que d'y aller au Roundup, forcément, ça a un coût.
C'est un coût, et puis aujourd'hui c'est un coût, c'est pas les rendements au départ qu'on peut avoir. Alors c'est vrai que je me rends compte que les gens disent « putain, bio c'est top », etc. Dès que t'arrives que t'es 10 à 20% plus cher, oui, parce que t'as une vraie volonté de bien faire, ah non mais c'est cher. Et on le voit, je parle du vin, mais on le voit dans beaucoup de catégories de produits, c'est pas que lié au vin.
Bien sûr.
Mais nous aujourd'hui, je pense que c'est un choix qui est un choix stratégique et obligatoire, puisque maintenant on sera... dans les 5 ou 10 ans à venir, c'est un passage que ce ne sera même pas une plus-value de dire je
et
suis
c'est
bio,
une nouvelle clientèle que vous travaillez avec non, ce type de produit ou pas, dit Paul.
Nous, on a une vraie montée en puissance et une vraie volonté d'y aller. Une nouvelle clientèle, non. C'est juste une logique aujourd'hui écologique qu'on est obligé de suivre, une vraie volonté qualitative de nos vins parce qu'on se rend compte. Alors moi, je suis à bonne école parce que j'ai lu pas mal de choses et ça fait un bout de temps que je travaille dessus, mais je ne peux pas tout faire. C'est étape par étape, déjà acquérir des vignobles, oui, après se mettre en bio.
Enfin, c'est un travail. Financer tout ça aussi, hein, c'est une vraie boîte.
Donc, je suis très fier d'être négociant aussi aujourd'hui et d'avoir des marques à côté qui permettent de dépoler la construction d'un domaine, parce que nous, c'est notre logique aujourd'hui.
Hélène ?
Et puis alors, quand vous n'êtes pas en Bourgogne ou en Provence ou dans la ferme familiale du Limousin, vous êtes en Normandie, puisqu'avec trois amis, vous avez racheté la cidrerie Héroux. Oui. Un petit coup de chapeau au passage à Marie-Agnès Héroux, qui est une femme extraordinaire.
Extraordinaire, oui.
Et comment vous avez atterri en Normandie, là ?
Alors, improbable. Ça fait des années que je m'intéresse à la pomme, parce que j'ai toujours été hyper attaché à ça. Et j'ai un de mes grands copains qui s'appelle Jean-Baptiste Lombard, qui est un peu l'homme de Héroux aujourd'hui, qui accompagne Marie-Agnès, qui nous transmet son savoir depuis maintenant 3 ans. Et on avait une vraie boîte toujours, donc qui est en bio aussi, hein, avec une dizaine d'hectares qu'on exploite. Et il m'a dit, écoute, je lui disais, je cherche. Lui a quitté, à l'époque, il était chez MEF. Il dit, j'ai quitté mon job, je vais monter avec un copain. Non, pas du tout. Il avait monté, enfin, qu'il a toujours Octave, qui est une société de distribution de 20 grands domaines, etc.
C'est autre chose, ça, ouais.
Et il avait une vraie volonté d'investir en Normandie, puisqu'ils sont tous issus de Normandie, sauf moi. Et il m'a dit, écoute, j'ai trouvé l'endroit magique, Marie-Agnès.
Vous êtes où exactement, Normandie ?
On est à Auvers.
C'est dans Cotentin.
Le Cotentin, ah, la vraie.
Alors, quoi, je précise, si Marie-Agnès s'entend, oui, AOP du Cotentin, ce qui est très important, avec des prises de mousse naturelles. En plus, on a un des rares à avoir lancé la notion de millésimé. Donc, on se rapproche. En fait, ça se rapproche de la Bourgogne.
Du vin.
Exactement, du vin. Et on a fait des
Vous avez du Calvados aussi ou pas ?
Oui, bien sûr.
Ah oui, qui lui aussi est millésimé.
Et qui est aussi, alors, VS, VSOP, XO, etc. Donc, on va dire qu'on travaille sur des vieux Calvados. Ouais. Honnêtement, qu'on a repris de Marie-Agnès, qui ne sont pas liés à nous, mais on a pas mal...
Bon, et demain, vous allez faire quoi, Paul ? Parce qu'entre la Provence, la Bourgogne, la Bonne Vache du Limousin, là, le Cidre et le Calva, on vous trouve où, là, demain ? Sur Mars, en train de planter de je sais pas quoi, des rosiers ?
J'ai plein de projets, mais on va
Qu'est-ce que vous avez comme projet ?
J'en ai plein, mais je ne peux pas en parler.
Si, il n'y a personne, juste 143 000 à vous écouter, donc dites tout votre projet, là.
J'ai envie, aujourd'hui, de me rapprocher de plus en plus, donc une vraie volonté de monter en puissance du domaine. On retravaille tous les terroirs. C'est vrai que la crise, ça nous a permis aussi, malgré les difficultés, de se concentrer à fond sur les vrais changements aujourd'hui.
Et de réfléchir aussi. Hein.
Et de se projeter. Je pense qu'au vu des investissements qu'on a fait depuis 3 ans, on va un petit peu se calmer, parce que je rappelle que mes chers partenaires bancaires nous ont bien accompagnés et heureusement, on les remercie. Je pense que dans les 3 ans, on va un peu calmer le jeu, avec quand même quelques vraies volontés à venir, mais que je ne
peux pas... Stabilise, quoi. Bon, alors pour terminer, vous avez des sites internet, là, on va commencer par le cidre, parce que c'est hyper important.
Oui.
Quel est le nom du...
www.heroux.com.
Voilà, Heroux, H-E-R-O-U-T.
Merci. Ouais, alors pour la Bourgogne, c'est
www.egerter.fr.
Et pour terminer, donc, le Limousin, non, je plaisante, la Provence.
Le château Issol,
c'est www.issol, alors y2sol.fr.
D'accord. Et puis, température de service de votre cidre. Oh. Attention, là.
Ah, la question piège.
La question avec une bonne petite crêpe préparée par Hélène.
Non, surtout pas des crêpes. Non. Des huîtres.
Bien sûr.
Ah oui.
Des huîtres.
Ça marche magnifiquement bien.
Combien la température de service ?
Allez, 12 degrés.
Merci beaucoup, Paul. Merci également, Hélène. On se retrouve dans un instant au bar du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée avec le Vino Quiz et puis plein de cadeaux à gagner, notamment des cuvées Bandit de Loire et Divine.
Sud Radio Invino, midi 30, 13h. Alain Marty.
Retour chez Nicolas le caviste, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino Sud Radio, pour nous indiquer vos vignerons favoris. David Cobold, c'est le moment du Vino Quiz. Vous qui êtes le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, David.
C'est bien vrai, ça. Là, la question de la semaine dernière était, qui est à l'origine du domaine Arnoux Lambert ? Réponse A, Yves Lambert, le père d'Arnaud. Réponse B, Arnaud Lambert lui-même. Ou la réponse C, les ancêtres d'Arnaud. Donc la bonne réponse, c'était la première, c'était Yves Lambert, le père d'Arnaud.
Voilà. Très bien. Et donc cette semaine ?
Ça c'est fait, il y a une nouvelle question maintenant.
Exactement. Hein,
vous voulez la connaître ?
Allez, chiche.
Allez. Alors, voici la question. Quel rêve Paul Egerter a-t-il pu accomplir l'été dernier ? Réponse A, il a fait le tour du monde. Réponse B, il a repris un domaine en Provence. Réponse C, il a rencontré Leonardo DiCaprio.
Très bien. En Normandie, autour d'une pomme.
Oui, il a peut-être fait les trois d'ailleurs, parce que vu le nombre de choses qu'il fait, je pense que c'est possible. Alors, pour répondre et gagner un coffret de 3 bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret Divine et le livre Un autorisme et spirituel en français dans le monde, aux éditions Erol, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv à la rubrique Vino Quiz.
Et le gagnant sera
tiré parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup, David Cobold. Invino Sud Radio accueille maintenant Mathilde Giraudet, gérante du domaine de Bois-Mosée. Bonjour Mathilde.
Bonjour à vous.
Alors, vous êtes située dans le Maine-et-Loire. Alors racontez-nous votre belle histoire de vin.
Alors nous sommes situés à Couture, à peu près à 20 km au sud d'Angers, près de la Loire, à 3 km à vol d'oiseau.
La douceur angevine,
oui. Et nous avons en fait 38 hectares de vignes. Composé de 2 îlots, un îlot qui est de 26 hectares sur un terroir argilo-calcaire.
D'accord.
Et un îlot sur schiste gréseux, plutôt pour les coteaux de l'Aubance, Donc plutôt sur le côté massif armoricain.
C'est une affaire familiale, voilà. Vous l'avez acheté hier matin?
Non, c'est un domaine viticole familial à la base, qui a été bâti dans les années 30 et qui a été repris en 96 par des gens passionnés du vin.
Hélène, et passionnée aussi Hélène.
Vous y êtes arrivée en mai 2004.
Tout à fait, oui.
Joyeux anniversaire.
Merci.
Bah oui, mais exactement.
C'est vrai, c'est le mois de mai, on a le droit. Bon. Alors effectivement, depuis, vous y avez fait énormément de choses, notamment un passage en bio. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vous a pris des années, mais je trouve ça, enfin, plus que d'habitude. Mais ce qui est super, c'est que vous avez vraiment fait des tests, vous avez vraiment essayé de voir comment ça fonctionnait. Vous avez pris votre temps et depuis, on ne vous arrête plus. Il y a des moutons dans les vignes, c'est bientôt des poules.
Oui, voilà, bientôt des poules peut-être. Ouais. On est sur ce projet-là, mais ça, c'est tout à fait autre chose.
Ah, c'est un vrai projet, des poules?
Mais oui, mais je ne dis pas n'importe quoi, j'ai l'air comme ça. Mais
j'ai
pas
compris
du
des
tout.
Poulpes, je me dis, qu'est-ce qu'on fout les poulpes dans le... D'accord, donc qu'est-ce que vous allez faire avec vos poules? Parce que ça, c'est très intéressant.
En fait, on a déjà des moutons dans les vignes pour nettoyer les vignes à l'hiver, en fait. Hein,
c'est cohérent.
L'éco-pâturage. Et les poules, elles sont là aussi pour remanier le sol et donner. Enfin, de mettre en.
Ça gratouille.
Ça gratouille, et au niveau des vers de terre, ça les.
Ça gratouille et ça
fait revivre le sol.
Ah oui.
Et en fait, ça mange beaucoup d'herbes aussi. Donc en fait, ça fait un nettoyage superbe.
Et en plus, ça donne en option des œufs.
Et ça donne en option des œufs. Donc en fait, c'est une idée aussi de faire une petite roulotte avec les poules et les balader dans le vignoble.
C'est génial, c'est comme truc là.
Et alors, vous allez encore.
Mais balader des poules en roulotte, c'est évident, non?
Mais oui, mais moi je fais ça tous les week-ends. Puisqu'avec l'aide de Mission Bocage, vous avez aussi beaucoup travaillé sur tout ce qui est biodiversité. Et là, cette année, vous avez planté plus de 1000 arbres.
Alors en fait, c'était pas en 2021, c'était en 2020. C'était juste avant le confinement.
Oui, quand j'ai dit cette année dernière.
C'est pas grave. Et en fait, oui, on a été accompagné par la société Mission Bocage du fait qu'on voulait essayer de mettre de la biodiversité, amener plus de biodiversité sur le domaine. Et leur donner aussi un endroit, un genre de corridor pour se déplacer. Parce qu'en fait, on a beaucoup de chauves-souris en Anjou, et particulièrement sur Couture. Et les chauves-souris, en fait, elles sont là pour manger les vers de grappe. Donc, elles interviennent sur le Cochilis et Eudémis pour manger les papillons. Et donc, en fait, ça permet de lutter naturellement contre ce vers de grappe.
Et donc, toutes ces plantations d'arbres, ça va aider pour toutes les bébêtes.
Ça leur permet d'avoir un corridor, en fait, pour se déplacer.
Voilà, donc on est super contents.
Des poules, des moutons, des chauves-souris.
Mais oui.
C'est génial comme région.
Il faut tout ça pour arriver à faire toutes les cuvées que vous faites, puisque vous avez à peu près toutes les appellations possibles dans ce coin-là.
Bah, c'est la particularité de l'Anjou, c'est qu'en fait, on a une grande diversité de vins. Et on fait les vins de l'apéritif au dessert. Avec les bulles, les blancs secs, l'Anjou blanc, les rosés, donc les rosés secs, les rosés demi-secs avec les cabernets d'Anjou, les rosés d'Anjou, et aussi les Anjous rouges, donc les Anjous faciles d'accès, gouléants, faciles à boire, les Anjous village, donc plus concentrés, structuré, plus structurés, ouais. Et on finit par la petite douceur, les coteaux de Lobance.
Alors ça fait beaucoup tout ça, et tout ça uniquement à base de 5 cépages, le chenin évidemment emblématique.
Le chenin, prononcez bien Hélène.
Ça dépend des régions, je sais bien que là-bas ils disent le chenin, mais partout ailleurs en France, chez les cavistes, on propose un vin de chenin.
Hein. Oui, chacun son chenin. Alors.
Et puis Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon.
Faites votre chenin.
Oui.
Grelot et Pinot Noir, donc dans quelle proportion tout ça?
Alors, c'est une grande majorité de Cabernet Franc, enfin Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon. On a 17 hectares à peu près de Cabernet Franc, 23 hectares de Cabernet Sauvignon, un peu de Pinot et du Grelot noir. On a planté aussi un petit peu de Grelot gris et le reste en chenin.
David Kobel, ça va être le point technique de ce samedi 8 mai, jour de l'armistice. Le Grelot, c'est quoi ça?
Le Grelot, c'est un cépage rare.
Qu'on gagne à la loterie nationale le samedi soir. Non, pas du tout.
Honnêtement, c'est un super col. Merci Alain. Je ne connais pas bien le Grelot. Ouais. J'en ai goûté, mais seulement
Mathilde,
là-bas.
Caractéristique du Grelot.
Dites-nous un peu,
alors
Mathilde.
En fait, c'est un vieux cépage en fait, de la Loire. Hein, et c'est un cépage qui va être plutôt sur des notes épicées. Ça fait des grosses baies au niveau de la grappe.
C'est autochtone, c'est-à-dire qu'on n'en trouve que généralement dans le Maine-et-Loire.
C'est vraiment le Maine-et-Loire, un peu le muscadet aussi.
Mais très bien, donc c'est à découvrir.
C'est gagner le gros lot.
Oui, écoutez, ça fait quand même 1024 émissions que je tends des perches en me disant il va se planter. Ça y est,
c'est fait.
Le gros lot, David.
Il en fallait une, on a trouvé la question.
Le gros lot, pour Noël, vous aurez un gros lot. Tiens.
La réponse. Alors, vos 14 cuvées, on commence par laquelle? Parce que là, il y en a tellement. Par quoi on commence?
Sachant que nous avons 3 heures. Hein. Allez-y.
Beaucoup de cœur.
Alors en fait, on a des cuvées donc en jus rouge et on a fait une cuvée particulière. On a voulu se tenter, comme vous disiez tout à l'heure, on fait beaucoup de tests sur le domaine. On est parti au niveau du bio. On a vraiment voulu s'affranchir de la chose avant de le faire. Et au niveau des rouges, en fait, on a dit pourquoi pas se tenter une cuvée sans soufre. Donc en fait, on a essayé. On a fait la cuvée Sonate 100% Cabernet Franc. Et on a décliné, donc ça c'était en 2016, et en 2019 on s'est dit bah, pourquoi pas se tenter un chenin, pareil, sans sulfite ajouté. C'est le clair de terre qu'on a fait en 2019, et qui vient de sortir dans la RVF.
Nos amis de la RVF. Voilà. Et là, le potentiel de garde, selon vous, Mathilde, c'est on peut l'oublier pendant quelques années. Il faut le déguster
rapidement.
Sur sa prime jeunesse, entre 2 et 5 ans.
Alors, sur le rouge, on n'a pas trop. On a 2016, vous voyez, ouais. Ça se boit sans problème encore actuellement. Quoi. Donc, on a un potentiel de garde de 6-8 ans sans problème.
En général,
en fait, on n'a pas trop de recul non plus.
Oui, c'est ça. David Cobol, les vins de Loire, de façon générale, ils ont un potentiel de garde ou pas?
Certains, absolument, oui. Les rouges de Loire, les rouges de Cabernet Franc, surtout. Assez concentrés, qui viennent des coteaux, que ce soit du Sommerois, de l'Anjou ou du Bourgueillois. 10, 20, moi j'en ai goûté, qui avaient plus de 100 ans et qui étaient impeccables.
Plutôt en rouge, David.
Je parle des rouges. Après les blancs, les chenins aussi, les chenins les plus concentrés. Je ne parle pas des doux, je parle des secs. Et ils peuvent très très bien, dans une émission il y a une semaine, j'ai parlé des bouteilles de Château Brézé que j'avais bu, qui dataient de 29 et de 34.
De 1929, hein, précisons. Oui. C'est pas 29 ans.
Et les vins étaient magnifiques.
Non, mais ça ne m'étonne pas. Nous, chez nous, en fait, on a encore des 2005.
Ils sont très bien aussi.
Et donc, c'est très, très bon à boire.
Mais ça, c'est important. Il faut dire qu'il y a pas mal de vins qui peuvent vieillir.
Il faut avoir une bonne cave et éviter les cambrioleurs.
Ouais, voilà, et puis prier également pour que le bouchon tienne. Quoi.
Bon, après, il faut prendre sur les beaux millésimes aussi.
Prendre les meilleurs millésimes chez les bons vignerons et puis avoir un bouchon qui tient la route. Ça aussi, c'est souvent problématique.
C'est très important. Hélène Piau.
Alors, parmi vos lancements récents, il y a aussi un vin orange.
Oui, tout à fait. Un vin de macération. Donc, on a lancé en.
Voilà, je préfère le terme vin de macération que vin orange parce qu'ils ne sont pas nécessairement oranges.
Non, alors le nôtre est quand même une tendance à être orange, mais c'est vrai que c'était pareil, c'était un test.
Et vous testez beaucoup, c'est bien. Hein.
On aime beaucoup, on part à l'aventure à Bois-Mauzé, on aime beaucoup ça. Et en fait, on a une équipe aussi qui aime ça, donc voilà. Donc c'est un vin que l'on a lancé en 2019 et on s'est tenté de faire une macération. Et on a fait des essais différents sur les temps de macération. Et en fait, on a sorti ce produit qui est très sympa. Donc avec une fermentation en cuve. Et quand on a des cuvées, on a mis le jus en barrique en fait. Donc avec un élevage en barrique derrière.
Avec les pots.
Oui.
Et je précise pour David qu'il s'appelle les Chenins d'or, donc il est vraiment orange, effectivement. Celui-là, il l'est vraiment. Mais je suis d'accord avec vous, David. On a des vins de macération qui ne sont pas toujours orange. Celui-là est
bon, Mathilde, vous êtes super sympa, mais combien ça coûte tout ça?
Alors, ça coûte, on va de 6,50 €.
Votre gros lot, par exemple, d'être que vous devez connaître le prix du gros lot.
Le gros lot, on le lance cette année. Donc, en fait, on a refait une cuvée de rouge en gros lot parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit que les gens sont de plus en plus à la recherche de cuvées comme ça. On a une cuvée aussi en pinot noir. Mmh. Et donc, le gros lot, pour l'instant, je n'ai pas de prix à vous donner. Je suis désolée, c'est la question piège.
Décidément. Ça fait deux.
Oui. Mais par exemple, sur notre Anjou rouge, on est à 7,50 € la bouteille.
C'est hyper raisonnable, Hélène.
Et puis, dans la série des démarches très sympas, en plus d'avoir des prix accessibles, je tiens à souligner, vous faites partie de l'opération Garde le moral, viens à la campagne, nom de l'opération lancée début février par le territoire Anjou, Vignoble et Village, pour les étudiants du Maine-et-Loire qui sont un peu déprimés pour des raisons qu'on comprend bien en ce moment. Oui. Et j'ai trouvé ça top. Mais vous avez aussi une cuvée spéciale pour Octobre Rose, pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Vous avez plein de cuvées géniales et d'opérations super. Donc, il faut aller voir votre site, il faut venir vous voir et il faut boire vos cuvées. cuvées.
Bien sûr, bien sûr, avec modération, mais régulièrement. On peut venir vous voir, là, vous avez...
Alors, on a un caveau d'accueil.
Vous êtes sympa, aussi sympa en vrai qu'à la radio.
On essaie d'être sympa, oui. On a quelqu'un qui est en fait chargé de l'onotourisme sur le domaine. Et en fait, on a un caveau de dégustation. Il y a plein d'activités, il y a des activités onotouristiques aussi. On peut visiter les vignes.
Bon, on va venir.
On a un escape game. Enfin, on a pas mal de choses sur le domaine.
Site internet pour terminer, pour prendre enseignement.
Alors, www.boismoze.com
Merci beaucoup Mathilde, vous êtes parfaite vraiment, mais vous aussi Hélène Pio, ça fait quand même deux femmes parfaites. Et puis on a collé David Cobol, ça y est, merci. Et Paul également, David Cobol et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque semaine, chaque week-end. Un clin d'œil à Angeline qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, notre page Facebook, Invino, le compte Instagram aussi. On se retrouve demain, il sera 12h30, précise pour une nouvelle émission. Elle sera délocalisée chez Nicolas Lecaviste, qui a été fondé en 1822. On parlera des Graves, on recevra notamment Dominique Guignard, le président du syndicat viticole des Graves, et son directeur, Mailleul Lhuillier, ainsi que Vincent Anger, propriétaire du Mas des Mesures. C'est l'heure, bon déjeuner, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.
Sud Radio, Invino.